We're taught that after the war the Nazis vanished without a trace. But battalions of fascists still dream of a master race. The history books, they tell of their defeat in 45. But they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. They say the prisoner of Spandau was a symbol of defeat. Whilst Hess remained in prison, then the fascists, they were beat. So the promise of an Aryan world would never materialise. So why did they all come out of the woodwork on the day the Nazi died? The world is riddled with maggots, the maggots are getting fat. They're making a tasty meal of all the bosses and bureaucrats.
Dans le cadre du festival du film antifasciste, Radio Primitive a pu interviewer Bichent et Gabi, qui ont tous les deux réalisé un film qui sera projeté au festival du film antifasciste 2025, au Temps des Cerises, le 7 juin. Voici tout d'abord l'interview de Gabi, réalisatrice du film GAD pour Gestation Armement Démographie. Mais avant, écoutons les propos qui ont déclenché la gestation de ce film.
Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. Nous étions jusqu'à récemment un pays dont c'était la force, sans doute la singularité en Europe, quand on se comparait aux voisins. Et c'est moins vrai depuis quelques années. Alors il y a derrière cela des angoisses qui vont avec la société, peut-être des choix pris jadis sur certains sujets financiers. Il appartiendra au gouvernement de poursuivre ce travail, mais je voudrais insister sur deux points pour essayer d'améliorer les choses. Après l'allongement du congé paternité, je crois profondément que la mise en place d'un nouveau congé de naissance sera un élément utile dans une telle stratégie. Congé de naissance qui viendra remplacer le congé parental actuel. D'abord, il sera mieux rémunéré, il permettra aux deux parents d'être auprès de leur enfant pendant 6 mois, s'ils le souhaitent. Et surtout, il sera plus court que le congé parental actuel, qui peut parfois aller jusqu'à 3 ans, et qui éloigne beaucoup de femmes du marché du travail, mais qui aussi crée beaucoup d'angoisse parce qu'il est extrêmement peu et mal rémunéré, et donc crée des situations parfois impossibles. La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle, mais les mœurs se changent, on fait des enfants de plus en plus tard, l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique.
Bonjour, on vous reçoit Gabi, c'est comme ça que je vous appelle, je dois vous appeler.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Donc oui, moi c'est Mathieu de Radio Primitive et on vous reçoit parce que vous allez venir diffuser un court-métrage, GAD, au Festival du film antifasciste 2025 à Reims, le 7 juin.
Mm-hmm. Oui,
et voilà, on vient d'écouter ensemble l'extrait où Emmanuel Macron parle de réarmement démographique. Et voilà, donc c'est un peu ça l'origine de votre court-métrage. Et voilà, je voudrais savoir comment ça s'est articulé pour vous, comment vous avez reçu ce message et comment vous avez montré ce que ça pourrait signifier si on attachait du sens au mot, quoi.
Oui, exactement. C'est vrai que moi, quand j'ai entendu ce discours, donc en conférence de presse en janvier 2024, l'année dernière, l'expression « réarmement démographique » a retenu mon attention pour l'usage notamment d'un vocabulaire belliqueux, de métaphores belliqueuses qui apparaissent assez régulièrement dans le discours politique et qui génèrent bien sûr de l'angoisse, des craintes, etc. Et ça a retenu mon attention aussi parce que si on attache justement de la valeur aux mots, au final, qu'est-ce que ça veut dire sur le corps des femmes qui vont donner la vie? Et après, sur ses futurs enfants, qu'ils soient enfants, enfin, qu'ils soient garçons, filles, intersexes, mais après, sur ses futurs enfants. En fait, si on parle de réarmement démographique, ça veut dire que la démographie est une arme. Bon, effectivement, elle peut l'être. Mais après, tous ces enfants qui naissent sont donc des outils au service de l'État, en l'occurrence, puisque c'était là un discours du président français, mon pays d'origine, puisqu'on a tourné en espagnol et qu'on l'a tourné en Espagne.
Depuis que moi j'ai entendu ce discours de Macron là, j'appelle tous les enfants des petites armes. On dit aux parents qu'ils amènent leurs armes, qu'ils viennent armés, etc. Mais
c'est vraiment
un mélange des genres qu'on n'aimerait pas voir, quoi. Ce discours.
Exactement. C'est le lien que j'ai fait effectivement en entendant cette expression réarmement démographique. Donc ça a été la première source d'inspiration du court-métrage. En fait, il y en a deux. Donc il y a ce réarmement démographique d'Emmanuel Macron. Et la seconde source d'inspiration, ce sont des discussions que j'ai eues avec des amis, des connaissances, des femmes de plusieurs générations, en fait. Ça va de 20 ans jusqu'à 60-65 ans. Et en fait, toujours cette pression quand la femme est en âge d'avoir des enfants, qu'elle est en couple, stable, bah, quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Quand est-ce que vous faites des enfants? Donc, quand il y a un couple hétérosexuel stable. Et quand la femme est célibataire, c'est quand est-ce que tu vas trouver quelqu'un pour avoir des enfants? Donc, en fait, l'inspiration de GAD, le court-métrage, c'est vraiment un mix entre cette expression du président français Emmanuel Macron en conférence de presse et cette pression sociale que j'ai pu constater dans mon expérience personnelle en discutant avec de nombreuses femmes de plusieurs générations.
Et du coup, il y a aussi, il y a aussi en arrière-fond toutes les politiques de recul sur l'interruption volontaire de grossesse un peu partout dans le monde, qui est un peu la version en creux de cette politique, quoi.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que nous, on a tourné GAD donc l'été dernier, l'été 2024, et on a commencé à le monter à la fin de l'été, et puis après, on a continué à l'automne. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on commençait à entendre des discours venant des États-Unis, effectivement, avec un recul des droits à l'avortement, du droit à l'avortement, et aussi venant de Russie avec la volonté d'une mise en place, d'une interdiction de la promotion d'un mode de vie sans enfant. Donc, c'est vrai que la fabrication de GAD, le montage de GAD, c'est vraiment croisé. Et puis après, sa sortie, puisqu'on l'a présenté en décembre 2024 à Valencia, en Espagne. Et après, sa sortie, c'est vraiment croisé avec toute cette actualité, en fait.
Mais, cette phrase-là de réarmement démographique, elle fait bizarre quand on pense qu'il matraque l'enfance, en fait. Là, il y a toutes les... tout ce qui est l'aide à l'enfance, même l'éducation, tout ça est en train d'être détruit. Donc on sent bien que ce qu'il veut, c'est des petits soldats et pas des citoyens complets et qui pourraient maîtriser leur destinée, quoi. Pas des citoyens émancipés, on pourrait dire.
Oui, effectivement, il y a un paradoxe entre dire faites des enfants parce qu'il faut des enfants, la démographie est en baisse, c'est une catastrophe, donc il faut vraiment relancer la démographie. Et à côté de ça, effectivement, comme vous dites, réduire des budgets sur des postes importants pour l'éducation, pour l'éveil, pour permettre effectivement de construire des personnes qui peuvent penser, en fait. Je pense que c'est ça vraiment. Et donc, comme vous dites, faire des bons petits soldats et qui va prendre en charge après ses enfants, comment ça va se passer. C'est vrai que ça génère beaucoup de questions après quand on commence à mettre en pratique, en fait, à imaginer et vraiment à mettre en pratique un discours qui peut paraître comme ça un peu dans les airs. Mais quand on commence à penser aux conséquences, effectivement, c'est assez effrayant. C'est assez effrayant.
Alors peut-être on peut parler un peu de comment vous avez fabriqué ce film, de l'équipe du film, des gens qui l'ont fait avec vous, etc.
Oui, avec plaisir, parce que voilà, bon, c'est vrai que c'est moi qui parle et c'est vrai que sur nos réseaux sociaux, c'est souvent moi qui apparais. Mais GAD, c'est pas moi, enfin c'est pas que moi, c'est une équipe de 10 personnes. Donc, en ce qui concerne la fabrication du film, alors au début, je pensais à faire une adaptation théâtrale, vraiment sans prétention, une espèce de lecture théâtrale dans un café spectacle, un café concert. Et puis après, je voyais du contenu sur Internet, des petits films comme ça, je me suis dit, on va faire un court-métrage. Mais alors, je n'avais jamais fait ça. Donc, tout me paraissait très simple. Et au final, durant la fabrication, je me suis rendu compte que ça ne l'était pas. Donc, moi, je connaissais deux actrices, donc les deux actrices de Gaz. Je leur ai fait lire le texte, elles ont dit OK. Et au début, je pensais vraiment filmer avec mon téléphone portable. Enfin, je vous dis, c'était vraiment quelque chose sans prétention. Et je connaissais une photographe, donc je lui ai demandé si elle pouvait me prêter son studio pour tourner la seconde partie de GAD. Et donc, je lui ai parlé un peu du projet et elle a aimé. Elle m'a dit, mais vas-y, compte sur moi, on y va. Donc, du coup, d'un projet qui partait un peu de pas grand-chose au final, de mon téléphone portable et de deux actrices, au final, voilà, une photographe talentueuse s'est greffée, ce qui nous a permis d'avoir, d'avoir une photo, un visuel de l'image professionnelle. Après, en ce qui concerne le montage, alors c'est moi qui ai monté la partie 1, on a monté avec la photographe la partie 2, mais j'ai vraiment découvert le montage avec Adriane, un artiste écrivain, dessinateur colombien qui vit à Valencia en Espagne, qui avait un petit peu monté, donc il m'a montré, et puis voilà, j'ai appris comme ça sur le logiciel à monter, donc on a monté le film. Et en ce qui concerne la musique, j'avais demandé à Emma Cadenas, une artiste péruvienne qui est compositrice, chanteuse, compositrice, mais pas seulement, qui est aussi poétesse, journaliste, théologue, donc de composer la musique de GAD. Donc la musique incidentale, on dit en Espagne, c'est la musique d'ambiance, pour la partie 2, et une chanson pour le générique. Et elle m'a fait le plaisir et l'honneur d'accepter. Voilà, pour compléter l'équipe, nous avons travaillé aussi avec une couturière, Paulina, qui a créé le sac d'Alicia Manzano, la protagoniste principale, qui est donc un accessoire qui apparaît dans la première partie. Et nous avons travaillé aussi pour le sous-titrage en anglais, parce que moi, on a tourné en espagnol, et bon, moi, je suis française, donc je voulais le sous-titrer en français, parce que je voulais qu'il soit accessible en français, et je voulais aussi qu'il soit accessible en anglais. Donc, pour le sous-titrage en anglais, on a travaillé avec Rachel Wong, qui est des États-Unis, native des États-Unis, qui nous a donc fait la traduction. Et moi, j'ai fait le sous-titrage en français. Et en ce qui concerne après le développement, communication, médias, etc., nous avons Laura Merino, qui est experte en médias digitaux et en communication. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors après, en ce qui concerne, parce que du coup, nous, on a fait vraiment ce court-métrage sans budget et on a eu un souci de son. Donc, j'ai lancé un crowdfunding pour améliorer le son et s'est joint à l'équipe Louis Fermoncada, donc, qui est vénézuélien, qui est le fondateur de la plateforme de crowdfunding Incresc, avec laquelle nous travaillons pour récolter des fonds. Donc, nous avons commencé à récolter des fonds et au final, quelqu'un a travaillé gratuitement, c'est-à-dire que le son a été amélioré sans qu'on ait besoin de toucher au fond, puisque le travail du son a été aussi une donation. Donc, au final, on a pu améliorer le son sans toucher au fond qu'on avait récolté. Et donc, l'objectif était atteint. Donc, soit j'arrêtais le crowdfunding, soit je le continuais. Et du coup, j'ai décidé de le continuer pour récolter des fonds pour un second court-métrage avec la même équipe. J'ai prévenu nos premiers sponsors et voilà, ils sont d'accord. Donc, ils laissent les fonds, même si l'objectif change. Et maintenant, donc, on fait un crowdfunding pour un second court-métrage.
D'accord. Ben voilà, j'allais demander comment c'était financé. Et donc, voilà.
Sans financement.
Voilà, sans financement pour le premier.
Voilà, c'est vraiment parti, je vous dis, d'un texte que j'ai écrit comme ça sur un petit carnet en français, qu'après j'ai traduit en espagnol, que j'ai proposé à deux. Et voilà, après ça a fait boule de neige. Mais non, on a vraiment fait ce court-métrage sans budget. Alors, GAD, c'est une incitation à la réflexion. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un court-métrage facile, ce n'est pas forcément un court-métrage devant lequel on s'assoit et puis pour passer la fin de journée et se détendre. Ce n'est pas ça. On l'a déconseillé au moins de 16 ans parce qu'il y a une scène notamment qui peut être impactante. Donc, c'est vraiment une invitation à la réflexion, à débat en fait sur un sujet d'actualité comme tout ce recul des droits, du droit à l'avortement, du droit au libre choix à avoir des enfants ou à ne pas en avoir. Ça questionne aussi une version utilitariste des corps, que ce soit du corps de la femme. Effectivement, c'est le corps de la femme qui apparaît dans GAD. Mais après, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment ces enfants qui naissent, quel que soit leur sexe. Donc, c'est aussi un questionnement là-dessus. Sur les violences institutionnelles également. Donc, voilà, c'est vraiment une porte ouverte à discussion. Et c'est aussi une vision artistique, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah bah tiens, c'est un documentaire ». Effectivement, la partie 1 a été tournée comme un documentaire, donc c'est une dystopie tournée comme un documentaire pour l'ancrer vraiment dans le réel. Et on a une seconde partie avec vraiment qui casse complètement, enfin qui est complètement différente de la première partie, avec des jeux de lumière, avec vraiment une photo artistique. Donc je ne sais pas si ça va donner envie de voir GAD, mais c'est ce que je peux dire en tout cas sur ce court métrage.
Et d'accord. Mais en tout cas, ça donne envie de venir au festival du film antifasciste parce que c'est des questions extrêmement importantes et qu'on a envie de voir soulever dans cet endroit. Donc voilà. Et ben merci. Et je suis impatient de voir le film ce jour-là.
Merci à vous, Mathieu.
Merci. Au revoir.
Avec plaisir, au revoir.
Écoutons maintenant Bichent pour son film Un roman national qui sera diffusé au Festival du film antifasciste le 7 juin 2025 au Temps des Cerises. Bonjour Bichent.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur du film Un roman national autour de l'extrême droite et de la vie d'un jeune militant d'extrême droite. Pour faire ce film, vous avez tout d'abord étudié les groupuscules d'extrême droite, puis infiltré. Et voilà, infiltrer un de ces groupes. Et voilà, j'aimerais savoir ce qui fait que dans l'infiltration, vous avez appris des choses importantes pour réaliser ce film que vous n'avez pas pu apprendre par l'étude de ces groupes extérieurs.
Bien sûr. Du coup, je vais faire un historique du projet, je pense, avant de parler du projet en lui-même. En fait, mon travail sur l'extrême droite, c'est un travail que j'ai commencé... lorsque j'avais 17 ans, en fait, j'étais au lycée. Et lorsque j'avais 17 ans, c'était la première présidentielle où Marine Le Pen arrivait au second tour. Et j'avais déjà une certaine conscience politique. Et forcément, c'est un âge où on se construit politiquement, surtout lorsqu'il y a un terrain favorable dans mon environnement. En l'occurrence, j'étais dans un lycée où l'antifascisme, il y avait quelques personnes qui étaient antifascistes, donc je trouvais ça assez intéressant. Et en fait, au-delà de ça, je trouvais qu'il y avait un vrai sujet qui, peut-être, n'était pas assez montré, tout du moins au cinéma. Je faisais le constat qu'en fait, au cinéma, on ne montrait presque pas, en fait, d'abord le monde de la politique, et encore plus le monde de la politique à l'extrême droite. Comme si il y avait peut-être un tabou, ou comme si on n'était pas capable de parler de l'extrême droite autrement qu'avec la figure de cette espèce de skinhead qui souvent est en campagne et qui souvent fait du foot et qui souvent a des problèmes psychiatriques, qui a des problèmes avec son papa, etc. Donc une figure qui est assez éculée, qui ne représente pas du tout la réalité de ce que sont les militants d'extrême droite aujourd'hui, du moins dans leur majorité, dans les sous-groupes de l'extrême droite. Et donc l'idée, c'était d'arriver à... arriver à créer un projet qui soit en cohérence avec l'air du temps, qui parle d'un sujet que je considère comme invisibilisé, pour, dans la sphère du cinéma, montrer à des gens qui ne s'intéressent pas forcément à la politique ce qui se passe au niveau des sous-groupes de l'extrême droite. Donc voilà, c'était un peu l'idée de base, bon, évidemment pas formulée avec ces mots-là quand j'avais 17 ans. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, mais la meilleure façon de parler de l'extrême droite au cinéma, c'est d'en faire un documentaire. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de débuter une sorte d'infiltration sur les réseaux sociaux des groupes d'extrême droite. Donc je m'étais créé une fausse identité, un faux profil, etc. pour tout simplement pouvoir devenir pardon, ami avec eux sur les réseaux sociaux, etc. Ça avait plutôt bien marché alors que mes profils venaient d'être créés. Donc finalement, ils n'avaient pas beaucoup de barrières de sécurité. Et en fait, très vite, effectivement, je me suis retrouvé sur des groupes, sur des discussions, etc. Moi, à l'époque, j'habitais au Mans, donc en fait, j'étais pas du tout à Paris. Et en l'occurrence, les identitaires qui sont pour leur grande majorité à Paris et à Lyon. Donc, en fait, en étant au Mans, je savais qu'à un moment, je finirais à Paris pour faire des études de cinéma, parce que voilà, c'est là-bas où presque tout est concentré. Et en fait, du coup, je préparais cette infiltration. Dans le groupe identitaire majoritaire qui est Génération Identitaire. Et voilà, donc en fait, ce travail-là, il a duré quelques mois. Et puis après, bah, dès que je suis arrivé sur Paris, j'ai rencontré les gens avec qui je parlais par Facebook, par Twitter, etc. Et pendant quelques mois, j'ai côtoyé ces gens-là, notamment dans les lieux, on va dire, publics où ils allaient, c'est-à-dire les bars. Parfois des soirées organisées par des membres des groupes. Mais ce qui m'intéressait, c'était surtout de garder le contact avec les deux ou trois personnes avec qui j'avais été en contact. Donc voilà, donc j'arrive à Paris et je mène cette infiltration pendant plusieurs mois, ce qui m'a permis de travailler pas mal de choses. Moi, ce qui m'intéressait d'abord, c'était voir qu'est-ce qui se passait en off, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dit hors de la sphère publique. C'est-à-dire par exemple les réunions de communication, les réunions de préparation d'action, tout simplement des discussions que les militants et les militantes pouvaient avoir dans un cadre privé. C'est ça qui m'intéressait parce que les identitaires étaient quand même les rois de la communication. Ils le sont toujours, mais ils l'étaient particulièrement à l'époque. Ils reprennent des modalités d'action qui sont issues de la gauche. Donc par exemple ACT UP. Qui a inventé presque une sorte d'agit-prop qu'on fait dans la rue via des grands événements hyper spectaculaires qui vont être surmédiatisés. Génération Identitaire, finalement, reprend les modalités d'action d'ACT UP à son compte avec des actions qui sont assez spectaculaires, comme par exemple aller à une frontière dans les Alpes et en fait brandir des grands drapeaux avec des hélicoptères pour dire aux migrants de ne pas passer, ou louer un bateau, je crois que c'était en 2017, qui s'appelait le Sea Star, dans mon souvenir, pour aller, je cite, déranger, enfin je cite, je me souviens plus exactement comment il formulait ça, mais l'idée c'était de dire on va aller empêcher les migrants d'arriver à nos côtes, quoi, concrètement. Donc c'est à la fois des actions médiatiques, bon c'est surtout des actions médiatiques, parce qu'à vrai dire, il ne se passait pas grand-chose, du moins de ce que je sache à ces moments-là. Mais voilà, c'est des gens qui travaillent vachement leur image. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir qu'est-ce qu'il y avait derrière cette image. Et bah, après, bon, forcément, très peu de surprises hein, au niveau de ce qui se passe en off, hein, les horreurs qu'on peut imaginer, le racisme qu'on peut imaginer, l'homophobie qu'on peut imaginer, et au-delà de ça, une construction politique qui est obsessive. Alors, je ne dis pas que nous, à gauche, on va dire nous, hein, nous, à gauche, et quels que soient nos pans, quels que soient nos groupes, etc., on a forcément des domaines d'obsession. Bah, on va énormément parler de capitalisme, de domination, de système patriarcal, de domination colonialiste, de système postcolonial, etc. Donc, on a souvent des thèmes qui reviennent. Mais ce qui est particulier avec les identitaires, et c'est ce que j'avais noté, c'est que eux sont obsédés vraiment par des sous-groupes qu'ils fabriquent eux-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, les identitaires, c'est eux qui ont vraiment fabriqué cette espèce de sous-groupe social qui, comment dire, s'est imposé au cours des années 2010-2020 et qui aujourd'hui dramatiquement est en train de binariser la société française, qu'on le veuille ou non. Il faudrait enrayer ça d'ailleurs, mais qu'on le veuille ou non, on va vers là. C'est le sous-groupe des immigrés. Concrètement, les immigrés qui sont constitués des Arabes, des Noirs, des musulmans, etc. Donc on met tout le monde dans le même panier, ça n'a aucun sens, mais on s'en fout. Le but, c'est voilà, de créer deux camps bien distincts. Et maintenant, rejoignez le camp que vous souhaitez, mettez-vous du bon côté de l'histoire si vous êtes un bon Français, etc., etc. Les identitaires, ils ont vraiment participé à ça. Mais toujours dans un calcul, en fait. Pour moi, les identitaires, ce sont des publicitaires. Vraiment, au-delà de, comment dire, de leur force d'action, de la violence dont ils ont pu faire preuve, de sûrement ce qui s'est passé en off, il y a eu des tabassages, il y a eu des agressions, etc., par les groupes identitaires. Mais pour moi, les plus gros dégâts qu'ils ont causés, ce sont des dégâts d'ordre culturel, d'ordre métapolitique, pour reprendre une expression qui est très bien décrite par Samuel Bourron dans son livre « Politiser la haine », où ce dernier explique que en fait, les identitaires ont vraiment favorisé l'émergence d'un nouveau climat médiatique qui permet complètement aux idées d'extrême droite de se diluer dans le discours, de s'imposer dans le discours, et au-delà de ça, de légitimer ce dont je parlais précédemment, c'est-à-dire de cette espèce de nouvelle configuration sociale où il y a nous et il y a les autres. Voilà. Donc, au niveau du long métrage, pour le présenter rapidement, si ça te convient.
Oui, oui, très bien.
Un roman national, du coup, c'est un long métrage qui est autoproduit, qui est aujourd'hui autodiffusé. Alors, on est aidé par une société de production qui a récupéré le film et qui nous aide à le diffuser, mais il a été fait avec vraiment les moyens du bord, c'est-à-dire un crowdfunding et de l'argent personnel que j'ai mis dans le film. Mais il a coûté très très peu cher, hein. C'est un long métrage à moins de 10 000 euros. Donc vraiment, c'est rien du tout pour un long métrage de cinéma. C'est un film qui a été fait avec plus de 80 personnes bénévoles. Donc ça, c'est important de noter parce que, pareil, on est dans une configuration alternative qui n'est pas une configuration associative, mais vraiment une configuration de bénévolat où les personnes qui voulaient travailler sur le film l'ont fait par souci idéologique et aussi par amour du cinéma, finalement. Donc il y avait vraiment des professionnels qui ont décidé de participer à la création du film. Pour ce qui est du film, ça parle de donc globalement de la montée de l'extrême droite en France, c'est la thématique du film, et plus précisément du danger terroriste qui va découler de cette montée de l'extrême droite, et comment cette montée de l'extrême droite va favoriser la possibilité à ce qu'il y ait des attentats terroristes ultranationalistes d'extrême droite. Voilà, donc ça c'est vraiment la thématique du film. Pour l'histoire, c'est l'histoire de Damien Cordonnier, qui est un jeune homme qui arrive à Paris et qui, en fait, va rejoindre un groupe identitaire. Et dans ce groupe identitaire, il va s'habituer, se socialiser à l'extrême droite. Et puis, finalement, un beau jour, après quelques mois, il va commettre un attentat contre les usagers d'une mosquée. Donc, il va tuer 11 personnes. Et toute la question du film, c'est de savoir pourquoi. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce qu'un jeune homme de 22 ans fusille 11 personnes dans une mosquée? Donc toute la question du film, en fait, est ancrée là-dedans, c'est-à-dire sur la question de la responsabilité. On va vraiment questionner la question de la responsabilité. Et évidemment, pour contrecarrer un discours de droite habituel, la responsabilité n'incombe pas seulement à la personne qui a tenu l'arme et qui a fusillé les musulmans dans la mosquée, je parle dans le film. Évidemment, il va y avoir une co-responsabilité, et c'est ce que le film va explorer. Et donc on va explorer la responsabilité du système médiatique, qui en fait va nourrir l'extrême droitisation de la France, les idées d'extrême droite, en les diffusant, en les partageant, même quand elle souhaite les critiquer, finalement elle les partage. Il y a aussi toute une réflexion à avoir, en fait, nous, sur nos médias de gauche, à comment on va diffuser les idées d'extrême droite qui sont parfois minoritaires et qui, d'un coup, deviennent majoritaires parce que, finalement, on les critique, nous, à gauche. Donc ça aussi, c'est plein de réflexions peut-être qu'on a essayé de porter dans le film. Et voilà, pour parler aussi de la gauche, le film se questionne sur la responsabilité de la gauche. Alors, on ne rentre pas dans tout un historique où on pourrait parler de François Mitterrand, parce que, enfin, pour moi, historiquement, c'est quand même, au niveau des instances légitimes démocratiques, c'est celui qui a permis quand même à Jean-Marie Le Pen de s'exprimer librement à la télévision. Il aurait certainement réussi à le faire, mais Mitterrand a quand même donné un sacré coup d'accélérateur au Rassemblement national. Tout cela pour garder le pouvoir, pour ses intérêts, etc. Donc déjà, la gauche socialiste trahissait son électorat par l'acceptation de la montée des idéaux fascistes en France pour combler une stratégie politique. On peut parler de ça. On peut parler du fait que, voilà, cet argument que je trouve à la fois, je pense que c'est un argument qu'il faut nuancer au niveau de l'histoire de la gauche, mais l'abandon de la gauche, enfin, le supposé abandon de la gauche des classes ouvrières, évidemment, c'est à nuancer, mais il ne faut pas oublier que pendant les années 2010, le parti hégémonique était forcément le parti socialiste à gauche, et c'est eux qui ont très clairement indiqué la ligne de conduite au niveau de la gauche, entre guillemets, la gauche d'État, quoi. Donc eux aussi sont responsables de cette montée-là. François Hollande est largement responsable de la montée des idéaux d'extrême droite, à commencer par le piédestal qu'il a offert à Emmanuel Macron. Bref, en tout cas, tout ça est lié. Et dans le film, on va avoir une scène justement avec des antifascistes qui vont réfléchir à comment est-ce qu'on réagit à cet attentat. Et explorer dans cette séquence, et c'est là qu'on est en rapport avec le festival du film antifasciste qui se tiendra à Reims, ce qui est exploré dans cette séquence, c'est la question de l'usage de la violence. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est face, on fait face à une montée en puissance des groupes d'extrême droite qui n'hésitent pas à frapper, qui n'hésitent pas à chercher à tuer, qui ont déjà tué d'ailleurs, qui n'hésitent pas à intimider, qui n'hésitent pas à faire régner un climat de peur dans certaines villes, qui, en fait, influent directement sur la vie des gens, mais là, de manière exponentielle. Donc, c'est un problème qu'il faut prendre à bras-le-corps, et donc, les antifascistes sont aussi, évidemment, partie prenante de cette problématique. La question du film, du coup, enfin, de cette séquence en particulier, la séquence des antifascistes, où on les voit réagir à cet attentat, c'est... Comment est-ce qu'on répond à la violence? Est-ce qu'on réutilise la violence par la suite? Ou est-ce que nous, à gauche et donc chez les antifascistes, je les lis, hein, dans un souci de cohérence avec la majorité des groupes antifascistes, comment est-ce qu'on, justement, on ne répond pas par du symbolique, en fait? Parce que une des critiques qui est adressée à certains groupes antifascistes, c'est justement de faire du militantisme, je cite, de canapé. Et effectivement, il y en a. Il y a des groupes de gauche qui font du militantisme de canapé. Après, on peut nuancer sur la question de la création idéologique, de la théorisation, de la question de la moralité, parce qu'en fait, c'est hyper important que des groupes politiques se posent quelques instants et se disent « Bon, on va convier des philosophes, des sociologues, des militants et militantes qui sont sur le terrain tous les jours, et leur demander, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont nos modalités d'action? Comment est-ce que nous, on garde une certaine morale par rapport justement à l'absence de morale de l'ennemi? Parce qu'en fait, pour moi, ce qui caractérise l'extrême droite, parce que en fait, l'extrême droite, elle peut être assez similaire à tous les camps politiques sur plein d'aspects, mais alors pour moi, ce qui trône à l'extrême droite, qui est vraiment l'opposé de la gauche, c'est que l'extrême droite n'a aucune moralité. C'est-à-dire qu'elle va toujours penser en termes d'efficacité politique, mais jamais en termes de morale, en fait. Est-ce que ce qu'on est en train de faire est humain, moral, cohérent par rapport à notre idéologie? Est-ce qu'on va se fourvoyer? Est-ce qu'on se compromet? Pardon, c'est plus le terme. Est-ce qu'on se compromet en faisant telle action? Et ça, c'est une question qui ne se pose jamais. Et pour le coup, pour avoir vu en interne comment ça fonctionnait dans les groupes identitaires, effectivement, ils ne se posent la question, en tout cas les identitaires, que de la question de la communication. Et ça, c'est terrible, parce que là, on est dans l'absence totale de réflexion politique et de réponse à des problèmes. En fait, l'extrême droite ne répond pas à des problèmes. L'extrême droite crée des problèmes, les fabrique, dans des buts électoralistes. On n'a aucune proposition concrète qui soit en cohérence avec les sciences sociales ou les constats d'années et d'années de militantisme, de recherche sur le terrain. Eux, ils s'en foutent. La question, c'est comment est-ce qu'on est efficace politiquement pour se faire élire? Donc voilà, et en fait, face à ça, nous, à gauche, on patine peut-être parfois trop sur des questions de morale, justement, alors qu'on oublie qu'à un moment, il faut agir. Et en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer. J'ai le sentiment que dans les sphères militantes, ça recommence depuis un certain temps, mais là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mouvement d'ensemble qui est en train de se créer d'opposition à l'extrême droite, et pas que d'un point de vue moral, quoi. Et il va y avoir la question de comment on tient la rue, en fait. Et ne pas vouloir considérer cette question, c'est avoir un regard bourgeois sur la situation, Parce qu'en fait, déjà, ça enlève toutes les problématiques locales au niveau de l'extrême droite et de comment l'extrême droite violente des personnes qui ne sont pas forcément des militants d'ailleurs, mais qui vont agresser, qui vont piller, qui vont intimider. Mais en fait, ça, comment on réagit face à ça? La plupart du temps, la police va pas faire grand-chose, parfois même va les escorter, va les protéger. Donc, comment est-ce qu'on fait pour apporter des réponses concrètes à ça, tout en ne perdant pas trop de temps avec la question de la moralité? Voilà, donc c'est une des questions qui est posée dans le film. Donc, je pense que vous l'avez compris, du coup, dans mon descriptif qui est parti un peu loin, je suis désolé si c'est un peu chaotique, mais le film, en fait, va aller de sphère en sphère. Donc, on va voir la sphère des identitaires d'extrême droite, on va voir la sphère des antifascistes, la sphère des médias. Et ça permet, en fait, de faire un espèce d'état des lieux. Évidemment, le film a été écrit fin 2022, début 2023. Là, on est en 2025, le film va sortir. Évidemment, la situation n'est pas du tout la même que fin 2022, quoi. Entre-temps, il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, il y a eu la percée du Rassemblement national, l'extraordinaire percée du Rassemblement national. Mais pour reprendre le titre du bouquin que l'Institut Boétie ont sorti il n'y a pas longtemps sur l'extrême droite, il faut rappeler que l'ascension de l'extrême droite, elle est résistible. On peut résister à cette ascension de l'extrême droite. Et en fait, refuser de voir ça, c'est s'accommoder d'une situation qui va forcément mener à des violences extrêmes. C'est aussi pour ça que le film ne s'adresse pas qu'à des antifascistes ou à des personnes qui sont politisées à gauche ou qui sont dans des sphères oppositionnelles ou qui ont des idées de gauche. Le film s'adresse également à tout un pan peut-être du champ artistique, donc des personnes qui s'intéressent au cinéma, qui ne sont pas forcément au courant de tout, qui ne savent pas forcément pas tout des enjeux qu'il y a au niveau notamment des sous-groupes de l'extrême droite, qui ne sont pas forcément discutés dans le débat public français. Sauf qu'en fait, il y a une vraie problématique à ce niveau-là. Il y a une problématique, à proprement parler, démocratique. Et c'est à ça que le film sert. Et voilà, c'est pour ça qu'on a hâte de le faire découvrir à plein de publics. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup. Je crois que c'était parfait. Très bien. Merci beaucoup. Ça donne vraiment envie de voir le film, en tout cas.
Et ouais. Voilà. Bah, trop bien. Merci à vous. Et juste un petit mot de la fin, si vous me permettez.
Bien sûr, bien sûr.
Le film sortira sur YouTube en libre accès le 2 juillet 2025. Donc, c'est une date qui est hyper importante parce que tout le monde pourra le découvrir gratuitement. Donc ça, c'est assez rare dans le monde du cinéma, qu'on puisse voir des films comme ça gratuitement à leur sortie. Et entre-temps, il y a plein de projections qui sont organisées un peu partout en France, donc, dont au Festival antifasciste de Reims le 7 juin prochain. Je crois que c'est à 14h20, la projection. Vous pourrez le découvrir et je serai présent pour présenter le film en tant que réalisateur. On pourra parler de plein de sujets différents, ce sera passionnant. Et il y a d'autres avant-premières qui sont organisées à Paris, au Mans, à Rennes, à Nantes. Et voilà. Donc, on espère vous y retrouver. Et voilà, retenez cette date du 2 juillet 2025. Vous pourrez le découvrir gratuitement en ligne.
Voilà. Et puis, on se retrouvera donc le 7 juin au chapiteau du Temps des Cerises pour voir votre film et puis pouvoir discuter ensemble de la situation. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous pourrez retrouver le film de Bichène Volley, un roman national, à partir de 14h15 le samedi 7 juin au Temps des Cerises dans le chapiteau blanc. Le film sera suivi d'une discussion en présence du réalisateur et de René Monza. Le film de Gabi, GAD, pour Gestation Armement Démographique, sera quant à lui diffusé à 16h30 sous le chapiteau blanc et suivi aussi d'une rencontre avec la réalisatrice et l'actrice principale. Rendez-vous le 7 juin pour le Festival du film antifasciste. Dès 14h, au Temps des Cerises, rue Marie-Dominique Mingot, à Reims. Enough is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough.